Bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer d'abord par remercier les organisateurs de m'avoir convié à ce colloque pluridisciplinaire. Et donc, je vais l'ouvrir avec une page d'histoire hein, pour cette première session. Une page d'histoire qui a été un petit peu éclipsée par la célébration cette année du 500e anniversaire de la naissance du domaine. En effet, il y a tout juste 50 ans, 1969, était élu à la présidence de la République Georges Pompidou, et le successeur du général de Gaulle a été en fait à l'origine d'un plan d'aménagement de Chambord qui explique en grande partie son apparence, sa physionomie actuelle. Alors ces travaux, ils se sont échelonnés sur 4 ou 5 ans, hein, c'est des travaux en fait qui ont enclenché une nouvelle dynamique et qui explique que par la suite, eh bien, ce domaine a été progressivement revalorisé. Il a été classé, comme vous le savez, au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981 et inscrit ensuite au réseau Natura 2000 à partir de 2006. Alors, ces transformations, elles portaient en partie sur le château, en particulier sur des pièces du deuxième étage qui ont été aménagées pour accueillir des réceptions, qui ont été redécorés dans un style cinégétique, inspiré bien sûr de l'époque de la Renaissance, mais les travaux concernaient surtout les espaces forestiers. Alors pourquoi Georges Pompidou a-t-il décidé ces aménagements au début de son mandat et en quoi consistait exactement ce plan d'aménagement? Alors pour répondre à ces questions, il faut d'abord revenir sur le contexte de l'époque, le contexte politique. Et bien sûr, voir quelles étaient les motivations de Georges Pompidou. Parce que finalement, ces motivations étaient autant personnelles que politiques. Et puis, donc, dans un deuxième temps, eh bien, je vous parlerai exactement de ce plan, en quoi il consistait et pourquoi il a marqué un tournant aussi dans l'histoire de Chambord. Pompidou aimait la chasse. C'est un homme qui a découvert ce loisir quand il était sur ses terres d'Auvergne avant d'arriver à Paris. Et puis, depuis son passage à la Banque Rothschild, ses fonctions de Premier ministre, c'est un plaisir qu'il a pratiqué pratiquement tous les week-ends en compagnie donc d'amis. Il sait aussi toute la dimension politique de ces manifestations, l'intérêt d'y rencontrer les élites politiques, économiques, de créer des liens, de cultiver son réseau. Et donc, une fois élu à la présidence, eh bien, il entend bien poursuivre ce vieux rituel républicain que sont les chasses présidentielles. Or, malgré son prestige passé, Chambord n'est pas à cette époque un territoire de chasse présidentielle, à la différence de Marly-le-Roi et de Rambouillet, qui sont rattachés directement à la présidence comme propriété privée de l'État, du chef de l'État, pardon. Le domaine de Chambord, lui, est géré à cette époque-là par plusieurs administrations et la forêt l'est notamment par l'Office national des forêts, dont la priorité est d'abord sylvicole. Dans ce domaine clos, entouré d'un mur de 32 km, les battues sont nécessaires pour réguler le gibier, mais elles sont effectuées principalement à l'époque par le personnel forestier et les membres du Conseil supérieur de la chasse, qui gère la réserve en fait depuis 1962. Les chasses présidentielles sont donc rares à Chambord. Le général de Gaulle en a organisé quelques-unes pour des hôtes prestigieux comme le chancelier Konrad Adenauer, mais c'est essentiellement à Marly et à Rambouillet qu'elles ont lieu. La situation va donc changer avec Pompidou. Le 10 janvier 1970, le président, 7 mois après son élection, décide donc d'organiser une chasse présidentielle sur le domaine de Chambord, une battue de sangliers, avec une trentaine d'invités. Alors, son apparition en ce lieu symbolique qu'est Chambord est importante pour son image, car nous sommes à ce moment-là dans une période de transition politique. Et Pompidou doit montrer que le régime de la Ve République peut survivre à son fondateur. Il est donc important pour lui de montrer par des rites présidentiels l'importance de sa fonction et de ses prérogatives. À l'occasion de cette chasse, où la presse est présente, là vous avez une photo qui était parue dans le Figaro à l'époque, hein, c'est important que la presse nationale assiste à cet événement, Eh bien, Pompidou prend conscience aussi que le domaine de Champmort n'est plus du tout approprié pour de tels événements. À l'issue de cette partie de chasse, il demande donc à un homme de ses réseaux, à un homme de confiance, François Sommaire, avec lequel il chasse régulièrement, de préparer un rapport sur la situation du domaine et de faire des propositions d'aménagement. François Sommaire, présentons-le, bien qu'il soit déjà assez connu pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. François Sommaire était un industriel originaire des Ardennes, mais c'est aussi et surtout un gaulliste de la première heure, un fidèle du général de Gaulle, il fait partie aussi des réseaux de Pompidou, et c'est surtout un grand connaisseur du monde cinégétique. En 1967, avec le soutien d'André Malraux, alors ministre de la Culture, il a fondé le musée de la chasse et de la nature à Paris. Confier l'élaboration du plan d'aménagement à Sommaire, c'est clairement faire un geste en faveur des chasseurs. Mais pour Pompidou, l'idée, c'est de redonner à Chambord sa fonction d'autrefois, c'est-à-dire d'en faire un lieu de chasse de prestige. C'est donc renouer avec la vocation première de Chambord. Mais pas seulement. En effet, il faut relier la conception du projet à des préoccupations plus larges, notamment aux questions environnementales, qui émergent dans le débat public et sur la scène politique au tout début des années 70. En effet, Pompidou, qui a fait de l'industrialisation la première de ses priorités, est aussi préoccupé par la dégradation de l'environnement, par la pollution. Et il est aussi le premier ministre, premier, pardon, président de la République à avoir donné une réponse institutionnelle aux questions environnementales. En mars 1970, est créée au sein du ministère de l'Agriculture une direction générale de la protection de la nature, la DGPN, qui sera suivie en janvier 1971 de la mise en place du premier ministère de l'Environnement, attribué à Robert Poujade. Sommaire lui-même est très préoccupé par ces questions d'environnement. En effet, sa passion cinégétique l'a conduit à chasser beaucoup, partout, en France comme à l'étranger. Mais elle l'a aussi à l'origine pour lui d'une prise de conscience sur la disparition dramatique du gibier. Et depuis une quinzaine d'années, Sommaire milite avec un autre gaulliste, Claude Étier de Bois-Lambert, pour une refonte de la gestion cynégétique en France. En 1969, Sommaire publie un ouvrage intitulé La chasse imaginaire, dans lequel il défend le principe d'une chasse raisonnée, respectueuse de l'environnement. Il écrit, je cite, La chasse n'est pas une tuerie, elle a ses règles. Le chasseur français doit assumer ce paradoxe. Pour pouvoir chasser quelquefois, il doit apprendre à toujours respecter la vie. Si les objectifs cynégétiques sont clairement affirmés, ils ne peuvent pas être la finalité du projet, qui doit être plus ambitieux. Chambord doit devenir un champ d'expérimentation pour de nouvelles idées en matière de préservation des espèces. Il faut donc trouver un point d'équilibre entre chasse et protection des animaux, mais aussi entre chasse et gestion forestière. Il faut donc revoir l'équilibre sylvo-cynégétique du domaine forestier. Et la production sylvicole n'est plus la priorité. Elle doit être conditionnée à d'autres objectifs. Donc, ce point d'équilibre, on retrouve un petit peu entre les personnalités qui vont gérer ce plan. Vous avez François Sommaire, qui est donc le fondateur du musée de la chasse et de la nature, et qui a une position assez intermédiaire entre chasse et protection de l'environnement. Vous avez Pierre Juliet, qui est le principal conseiller élyséen de Pompidou, qui est un passionné de la chasse. Et puis vous avez Marcel Blanc, qui a été nommé à la direction, à la nouvelle direction donc, de la protection de la nature. Alors ce projet va être préparé pendant 6 mois. Et Sommaire va le remettre donc à la présidence le 23 juin. Dans ce rapport, il dresse un tableau peu enchanteur de la forêt chambourdine. Il considère en effet que cette forêt devrait être l'objet d'importants travaux. Alors, il peut donner des solutions immédiates pour la prochaine saison présidentielle, mais pour lui, évidemment, ces travaux doivent s'étaler sur plusieurs années. Pour quelles raisons ? Parce que depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même, la végétation à l'origine de cette forêt, qui était formée d'espèces de feuillus, s'est fortement dégradée. Elle s'est fortement dégradée à la suite de plantations de pins sylvestres qui ont eu lieu à plusieurs périodes, depuis le Second Empire. Sous le Second Empire, en 1900, 1945, vous avez eu des enrésinements successifs qui ont parfois échoué, entraînant la formation de landes parsemées, de grands pins et de chênes espacés. Mais ce déséquilibre entre feuillus et résineux a eu une incidence sur les grands animaux. L'abattage a réduit leur nourriture, et donc, d'après le comptage des forestiers, le domaine comprenait en 1969 entre 400 et 600 cerfs, autant de sangliers et une centaine de chevreuils, soit au total entre 900 et 1300 animaux. Environ donc une bête de chaque espèce pour 10 hectares, ce qui paraissait faible en comparaison avec les autres domaines qui étaient voués à la chasse, où l'on comptait plutôt entre 400 et 600 sangliers, par exemple, pour 1000 hectares. En conséquence, les effectifs de grands animaux pouvaient être doublés pour chaque espèce. Sommaire constate que le cheptel est sain, mais d'une qualité médiocre. Les cerfs sont malingres et leurs trophées sont imparfaits. Les chevreuils, eux, ne parviennent plus non plus à se développer, car les jeunes taillis, qui constituent leur habitat naturel, sont en nombre insuffisant et mal entretenus. Donc, pour toutes ces raisons, plusieurs solutions vont être préconisées. D'abord, la priorité doit être donnée aux feuillus. Il faut reprendre le système de coupe complète, de taillis sous futaie, afin de provoquer la régénérescence des feuillus. Il faut procéder à de nouvelles plantations sur des espaces dégagés et il faut absolument arrêter l'abattage des grands chênes. Le projet préconise également de récupérer les terres louées aux fermiers tombés en déshérence ou en friche, de supprimer l'élevage, et ce sera d'ailleurs la première mesure qui sera prise en septembre 1970 par Pierre Juliet. L'élevage est supprimé sur le domaine de Chambord. Donc l'idée, c'est de redonner à la forêt son rôle nourricier. Le cheptel existant pouvait doubler en améliorant son habitat. Cela éviterait aussi d'importer des animaux. Sur le plan cynégétique, le rapport met aussi l'accent sur de nouvelles pratiques de chasse afin de respecter l'équilibre des milieux naturels. La chasse sélective et surtout le tir à l'approche. Sommaire est plutôt favorable à limiter au maximum les battues qui, selon lui, ont des effets néfastes sur les animaux. Il privilégie plutôt le tir à l'approche individuel. Il faut aussi, selon lui, amener les responsables des fédérations au plan de chasse, qu'il faut généraliser à l'échelle du territoire. Et faire de Chambord un centre de formation pour les représentants départementaux des fédérations de chasse. L'idée, c'est aussi de diffuser une autre image de la chasse. Une image d'une chasse qui n'est plus seulement un loisir, mais qui est aussi une activité utile dans un environnement naturel menacé. Alors, si les activités cynégétiques occupent une place importante dans le rapport de Sommaire, elles ne sont pas au cœur du projet, dont l'ambition est de faire du domaine un lieu exemplaire en matière de préservation des espaces naturels ouverts à un large public. En effet, pour Sommaire, il faut absolument développer le tourisme de vision et de photographie. Pour cela, il faut donc améliorer le cheptel. C'est-à-dire que cette amélioration des animaux est nécessaire non seulement pour la chasse, mais elle l'est aussi et autant pour des activités récréatives. Il faut en effet que le public puisse observer les animaux et qu'il puisse en voir beaucoup. Le public doit avoir la possibilité d'observer les animaux dans leur milieu naturel sans nuire à leur tranquillité. Il faut en effet que la faune conserve par conséquent son caractère sauvage, d'où la nécessité de préserver son habitat naturel et de mettre en place un zonage du parc avec des aires ouvertes au public et le reste réservé aux animaux comme zone de repos. Il faut donc aussi augmenter les surfaces des prairies et des espaces découverts pour que le gibier puisse être vu. Donc l'aménagement forestier doit consister à apporter au gibier le couvert et la nourriture nécessaires, au public des espaces verts d'accueil, de détente, et pour la chasse, il faut installer de nouvelles infrastructures, c'est-à-dire des miradors, des affûts, des lignes de tir. Mais la régénérescence de la forêt constitue bien la clé de voûte de l'ensemble. Elle conditionne l'existence de la faune et des divers usages du domaine. La production ligneuse ne doit donc plus être un objectif en soi, mais elle n'est donc plus la priorité des opérations sylvicoles destinées à pérenniser le massif boisé pour d'autres activités. C'est-à-dire que l'action des forestiers doit être réorientée vers la reconstitution des biotopes du grand gibier. La forêt est donc considérée désormais comme, alors je donnerai des chiffres voilà, pour montrer les premiers résultats, hein. La forêt est donc considérée désormais d'utilité générale, hein, avec deux objectifs associés, faire de Chambord une forêt vivante et un espace de détente et de découverte. Or, pour être rapide et efficace, il fallait que l'exécution du plan soit confiée à une seule autorité. C'est pourquoi ce plan d'aménagement a entraîné également une refonte de la gestion du domaine. Et donc, par décret, Georges Pompidou a donc créé un nouveau poste, qui est le poste de haut commissaire au domaine de Chambord. C'est-à-dire que ces travaux ont été confiés à une autorité indépendante, capable d'imposer à toutes les parties prenantes les objectifs assignés au domaine. Donc les travaux ont produit des effets attendus au bout de trois ans. En 1976, le nombre de cervidés, donc, comme je l'ai indiqué ici, vous avez 950 cervidés, 1200 sangliers. Rien qu'en 1976, ont été replantés 28 000 arbres sur 7 hectares. Et donc au bout de 4 ou 5 ans déjà, eh bien, le domaine avait subi d'importantes transformations. Donc en conclusion, ce projet initial a bien créé une dynamique nouvelle, transformant progressivement le domaine en un lieu de vie dédié à des usages multiples, culturels, éducatifs, cinégétiques, scientifiques, en tenant compte des conditions écologiques. Jusqu'au début des années 70, dans l'imaginaire collectif, le domaine de Chambord se réduisait essentiellement à la résidence de François Ier et ses abords immédiats. Autrement dit, la forêt, la majeure partie du domaine, était invisible. Si le château constitue aujourd'hui l'attrait premier du domaine, force est de constater que la forêt a retrouvé sa place comme élément constitutif du domaine. Chambord apparaît davantage aujourd'hui comme un joyau de la Renaissance dans un écrin de verdure. Les dirigeants ont compris, ils ont pris conscience, que la valeur patrimoniale de Chambord reposait autant sur le château que sur son environnement naturel. Sur le plan environnemental, les transformations du domaine forestier ont permis surtout de mettre en pratique ce que Georges Pompidou appelait lui-même une morale de l'environnement. En effet, toute politique environnementale a pour première étape de sensibiliser le public aux problèmes écologiques. Et ce fut bien l'ambition de ce projet qui a voulu concilier finalement des usages antinomiques dans l'absolu, la protection des espèces et la chasse, la préservation des espaces naturels et le tourisme de masse, et aussi Chambord comme à la fois lieu du pouvoir et comme lieu de démocratisation culturelle. Les usages antinomiques qui sont donc toujours en débat aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.